Oui, éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder pour que nous soyons des invités autour de ta table. Nous te disons merci parce que toi, tu as rendu cela possible, Seigneur. De par nous-mêmes, nous serions incapables de le faire. Mais comme tu as permis cela, nous te disons merci. Nous te disons encore merci depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Tu nous as protégés de plusieurs dangers. Et tu as permis que nous puissions faire ce trajet pour arriver ici, que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Alors maintenant, nous avons commencé avec toi par des cantiques qui sont montés. Et en ce qui concerne la prédication, Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce pour que toi seul, tu viennes faire ce travail qu'un homme ne peut pas faire. Pardonne d'abord, Père, nos offenses, ô mon Dieu Père, parce que la Bible déclare, non, ta main n'est pas courte pour nous secourir, mais ce sont nos péchés qui t'empêchent de nous venir en aide. Alors nous ne voudrions pas, Père, qu'il y ait, ô mon Dieu Père éternel, un voile entre toi et nous, mais nous voudrions que quand le sang de l'agneau nous couvre, que nous puissions entrer dans le sanctuaire sans problème. Et dispose, Père, nos cœurs, dispose, Père éternel, nos esprits pour que nous puissions recevoir, écouter comme écoutent les disciples. Honneur et gloire te soient rendus, Seigneur Jésus. Merci pour nous qui sommes là. Merci aussi pour les absents. Nous t'avons ainsi prié dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur d'être encore compté parmi les vivants aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est une grande grâce. C'est un privilège. Un privilège. Dieu nous a laissé vivre pour que nous puissions nous rassembler à nouveau ce soir afin de nous préparer pour le rencontrer. Parce que rencontrer le Seigneur demande une préparation, n'est-ce pas? Nous pouvons lire dans Apocalypse, l'épouse s'est préparée. Et comment elle s'est préparée? Elle s'est préparée en étant assidue aux pieds du Seigneur, écoutant la parole, cette parole qui est esprit et vie. Et quand vous ajoutez la foi à cette parole, Dieu entre en scène. Alléluia. Là, Dieu entre en scène automatiquement, mes frères et sœurs. C'est ça la chose principale pour nous. Nous préparer pour ce grand rendez-vous. Quand nous pensons seulement à ce qui se passe à travers ce monde, cela doit nous interpeller. Alléluia. Et nous voyons que Matthieu 24 est en train de se mettre en place. Mais il n'y a que ceux qui ont des yeux spirituels ouverts qui sont en train de voir ce qui se passe dans ce monde. Le monde nous indique que quelque chose est en train de se passer. Alors nous devons être capables de lire les signes du temps, sinon nous serons perdus. Ça, c'est une réalité que nous devons saisir. Mon frère, ma sœur, si vraiment tu te reconnais comme un HBC2, je te prie de prendre au sérieux l'avertissement de 1 Pierre 5, verset 8, qui dit ceci. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est un avertissement que toi et moi, nous devons prendre au sérieux. Parce qu'il ne s'agit pas d'une blague. Non. Il vous demande d'être sobre, de veiller. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, rôde. Et il fait la comparaison. Quand il rôde comme un lion. Ce lion qui rugit, qui cherche qui il va dévorer. Tous les mots qui sont employés dans cet avertissement ont un sens que tout le monde, entre guillemets, peut bien saisir. Donc le contexte qui est décrit là, c'est un contexte de guerre. Alors, si tu es distrait, tu passeras à la trappe. Nous avons vu, donc nous sommes en train d'aller chercher de prendre des renards qui sont susceptibles de ravager nos vignes. Tu peux te dire, ah, mais oui, mais oh, mes frères, moi je suis un disciple accompli, c'est-à-dire je suis un HPC2. Ok, fais gaffe. Ces renards sont susceptibles de ravager ta vigne en creusant des terriers. Et là, toi, tu te dis, oh, non, tout va bien. Il n'y a rien qui se passe dans ma vigne. Merci beaucoup. Et attention, le premier renard a été intitulé l'espérance trompeuse. On a vu ce qu'on a vu. Le deuxième renard, c'est la négligence. Cessez d'être négligent. Nous avons vu comment les Lévites et les sacrificateurs ont abandonné le temple, n'est-ce pas? Grave. Et Dieu nous a fait grâce. La semaine passée, nous avons pu débusquer le troisième renard, s'habituer à Dieu. On a pris l'habitude. Dieu est devenu notre voisin. Et donc, selon les textes de Matthieu 7, versets 1 à 8, nous avons bien avancé pour voir ces renards qu'on a appelés s'habituer à Dieu. Le Seigneur, dans Matthieu 7, versets 1 à 8, en réponse aux interrogations des critiques de chefs religieux sur ses disciples qui mangeaient sans se laver les mains, le Seigneur a soulevé deux questions, avions-nous dit. La première était la suivante. La véritable source de l'autorité religieuse vient de la tradition ou des Écritures. Ça, c'est à partir de Matthieu 7, versets 6 à 13. La deuxième question que le Seigneur a soulevé, la vraie nature de l'impureté est-elle cérémonielle ou morale? Ça, nous sommes toujours dans Matthieu 7, versets 14 jusqu'à 20. Alors, à partir de ces deux questions, quand on parlait de ces renards s'habituer à Dieu, à partir de ces deux questions, nous avons pu comprendre les dangers du renard qu'on a appelé s'habituer à Dieu. Dans Marc 7, versets 6 et 8, le Seigneur a fait référence à Ésaïe 29, verset 13. Ce n'était pas anodin. Non. Il a fait référence à Ésaïe 29, 13 pour justement dresser le portrait de chefs religieux. Il les a traités des hypocrites. Pourquoi étaient-ils des hypocrites? Parce qu'ils professaient intérieurement honorer Dieu, mais ne l'honorait pas vraiment du cœur. Leur adoration était en vain. Nous sommes allés dans Ésaïe voir comment ce peuple du temps d'Ésaïe, parce que Dieu leur avait donné la permission d'offrir des sacrifices, ils s'étaient habitués, bon, on va pécher aujourd'hui, demain, bon, on est là au temple avec les sacrifices, et c'était devenu un exercice gratuit. Et c'est pour cela que le Seigneur va chasser les vendeurs du temple, parce que ces rites devenaient comme un commerce, sans cœur. Et dans Ésaïe 1.4, qu'est-ce qu'Ésaïe dit? Ésaïe 1.4, Noah, tu peux lire?
Malheur à la nation pécheresse.
Voilà.
Au peuple chargé d'iniquité.
Voilà.
À la race des méchants.
Oui.
Aux enfants corrompus.
Oui.
Ils ont abandonné l'Éternel.
Oui.
Ils ont méprisé le Saint d'Israël.
Voilà.
Ils se sont retirés en arrière.
Oui. Pour que le rite extérieur ait une valeur quelconque aux yeux de Dieu, il doit s'accompagner de la droiture intérieure. Le peuple pensait, à tort, qu'il pouvait vivre à son gré aussi longtemps qu'il compensait ses péchés par les systèmes sacrificiels. Voilà, c'était devenu une habitude. Donc le soir, j'irai au temple, il aurait vendu des pigeons, des bœufs, tout, je vais acheter. Puis j'irai voir le sacrificateur. Oh là là, non, Dieu n'était pas content. S'habituer à Dieu, c'est s'habituer au mal. Très dangereux. On n'a plus la crainte de Dieu. Parce qu'on est habitué, quoi. On est habitué à la vie du péché. Parce que demain matin ou le soir, j'irai au temple, bon, à l'entrée du temple, je trouverai mon petit pigeon, je trouverai mon petit bouc. Voilà, il n'y a pas de souci. Mes frères, même quand nous apprenons que Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, cette réalité ne veut pas dire que tu dois persévérer dans la vie du péché. Non! Ou tu as carte blanche de vivre comme tu le veux. Non. Ça, c'est mal comprendre le message de la grâce. C'est mal comprendre le message de la grâce. Nous, c'est pas parce que tu entends Dieu miséricordieux dans la colère. Ah oui, mais oui, pourquoi c'est vous? Non. Il faut bien situer les choses à l'endroit où elles doivent se situer. Sinon, tu es tout simplement séduit. Voilà, tu es dans l'égarement. Il faut bien comprendre le message qu'on t'apporte. Dieu est miséricordieux, ok, et compatissant, ok, lent à la colère, ok. Cette réalité ne veut pas dire que tu dois persévérer dans la vie du péché. Et c'est comme cela que j'ai dit à une sœur de lire Dieu mal compris. Nous ne comprenons pas la miséricorde de Dieu. Alléluia. Alors que Dieu est en train d'essayer de nous faire comprendre sa miséricorde, mais nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas la miséricorde de Dieu. Alors, pour bien saisir tout ce que le frère est en train de vous dire depuis 3 semaines, lisez le message Dieu mal compris. Comme ça, vous allez bien, vous restructurer. Sinon, vous risquez de mettre le pas de côté. Oui, bon, on nous a permis, hein, c'est bon, allez. Dieu est miséricordieux. Non, monsieur. Allez, j'insiste, ceux qui sont des chrétiens de dimanche. J'insiste, si vous voulez bien saisir ce que le frère est en train de prêcher depuis 3 semaines, lisez le message ou écoutez le message Dieu mal compris. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Alors, ce soir, mes bien-aimés frères et sœurs, pour avoir le contexte de notre message, nous allons prendre nos Bibles. Trois endroits seront dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous aurons un endroit aussi à lire. Alors, voici les trois endroits dans l'Ancien Testament. Vous pouvez noter. Proverbe 11, verset 2. Onze, deux, seize, dix-huit, après vingt-neuf, vingt-trois. Et dans un Pierre cinq, verset cinq. Alors, commençons notre lecture, ça sera long, mais c'est pour le besoin de la cause. Alléluia.
Amen.
Alors, Proverbe 11, verset 2, lisons.
Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie.
Ok. Mais la sagesse est avec les humbles. Allez. Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. 29, 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Le dernier texte, 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Très bien. De ces quatre passages, je désire tirer sa parole pour ce soir. Vous avez vu que ces quatre textes sont traversés par un mot. L'orgueil. Alléluia. L'orgueil. L'orgueil. C'est notre quatrième renard à prendre. Espérance trompeuse. Hein? Négligence. S'habituer à Dieu. Et maintenant, le quatrième renard que nous devons prendre, c'est l'orgueil. Alléluia. Les petits renards dont parle Cantique des Cantiques 2, verset 15, ce sont ces mauvaises habitudes auxquelles nous prêtons peu d'attention. Alléluia. Donc, quand on parle de petits renards, ce sont des mauvaises habitudes auxquelles nous prêtons peu attention. Et c'est là où se trouve la dangerosité de ces habitudes. Parce que, bon, hein, tellement que ça fait partie hein, de notre vie courante, finalement, nous ignorons que ces habitudes sont dangereuses dans notre vie. Même quand tu es HBC2, c'est dangereux. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je te prie de bien ouvrir tes oreilles et de bien disposer ton cœur pour que tu puisses très bien saisir le contenu de ces messages de ce soir. Alléluia. Robert définit l'orgueil comme opinion très dangereuse qu'une personne a de sa propre valeur au dépens de la considération due à autrui. Je reprends la définition de Robert. Robert définit l'orgueil comme opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur au dépens de la considération due à autrui. Alors, selon les Écritures, l'orgueil se caractérise par la question suivante. Qu'est-ce que je veux dans la vie plutôt que par qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie? Vous comprenez? Selon les Écritures, l'orgueil se caractérise par la question « Qu'est-ce que je veux dans la vie ?» plutôt que par « Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie ?» L'orgueil tourne vers sa propre volonté plutôt que celle de Dieu. C'est la crainte de l'homme avant la crainte de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous devons bien connaître cette affaire. Elle est assez profonde. Nous devons bien connaître cette affaire parce que elle est assez profonde. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Plutôt que par qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? C'est le jour et la nuit. Alléluia. C'est le jour et la nuit. Jamais homme n'arrive à se poser cette question. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? En tout cas, là où nous sommes, moi-même, j'étais un peu secoué. Trop, trop secoué. Souvent, c'est notre personne qui passe avant. Alléluia. Au premier plan, c'est notre moi qui passe avant. Mais nous ignorons que nous sommes des créatures. Quelqu'un nous a créés. Alors, où sont ses droits? C'est pour cela que j'ai dit, nous devons faire attention à cette matière. Nous ignorons, tellement que nous sommes habitués, on s'habitue à Dieu, nous ignorons que Dieu a des droits sur nous. Parce que nous sommes les créatures. Mais nous faisons passer toujours nos intérêts au premier plan. Oh, pitié. Pitié. Nous allons maintenant, comme à l'école le dimanche, faire un commentaire détaillé de ce message. À partir de 4 textes que nous avons lus. L'orgueil, c'est une punaise de lit. Vous connaissez, nous qui sommes nés en Afrique. Fabrice, tu connais la punaise? Tu connais? Hé, hey, ma copine, tu connais la punaise? Non, hein? L'orgueil, c'est la punaise des lits. Alors, cette bestiole, quand vous retrouvez ça dans votre matelas, Merci beaucoup, hein? Merci beaucoup. Vous savez, elle peut piquer jusqu'à 90 fois en une nuit. Et oui, chef. Elle peut piquer jusqu'à 90 fois en une nuit. Dès que tu sens une piqûre, tu allumes, tu regardes, plus là, parti, VOE. Nous, quand nous étions enfants, on s'est nommé ça le VOE. Tu vas cesser, plus là, parti. Et tu vas souffrir pendant toute la nuit. Elle peut revenir, te piquer 90 fois. Est-ce que tu vois cette souffrance? Ah, ça c'est l'orgueil. Ça c'est l'orgueil. Alors, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Prends attention calmement sur un fait que j'observe. Sur un fait que je constate. Pour ma part, je dois vous le dire, je ne parlerai jamais du péché en termes édulcorés. Ça va? Je ne parlerai jamais du péché en termes édulcoré. Alléluia. Je mettrai toujours l'étiquette poison sur la bouteille du péché. Alors maintenant, c'est à toi, avec Dieu, puisque moi je ne suis qu'un porte-parole, tu iras chez Dieu, tu dis, tu vois, c'est ce type-là que tu as mis là-bas. Mais il ne met jamais de gants. Il n'est pas miséricordieux. Il n'est pas compatissant. Il nous balance des choses comme ça. Comme ça, vous allez discuter, vous deux. Donc, moi, non, je ne voulais pas prendre ces risques. Tel que se présentait, je vous le présenterai tel que. Alléluia. Donc, ce n'est vraiment pas à moi d'arrondir les angles, non. Je ne prendrai pas ces risques. Alléluia. Je ne parlerai jamais du péché en termes édulcorés. Je mettrai toujours l'étiquette poison sur la bouteille du péché. Comme ça, tu liras. Ah oui, il y a du poison dans cette bouteille. Il ne faut pas dire, non, frère Albert a mis l'étiquette, ça ressemble au poison. Non. Ça, de ma part, jamais. Jamais. Le péché, l'orgueil, c'est le péché par excellence. Puisqu'il a provoqué la chute de Lucifer, alors qu'il désirait être l'égal de Dieu. Alléluia. Ésaïe 14, verset 12-15. Ésaïe 14, verset 12 à 15.
Te voilà tombé du ciel, oui. Astre brillant,
oui.
Fils de l'aurore.
Oui.
Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion.
Oui.
Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts.
Pourquoi?
Dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau.
Lui, son problème était de devenir semblable à Dieu. Voyez-vous, ça c'est l'orgueil. L'orgueil est essentiellement une attitude de supériorité, dans laquelle on se complaît, c'est-à-dire on trouve son plaisir. Proverbe 16, 5. Noah.
Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel.
Tu vois? Toujours dans Proverbe 29, 23, nous lisons.
L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire.
Lucifer n'était pas humble d'esprit. Alléluia. Lucifer, lui, n'était pas humble d'esprit parce que son challenge était d'être semblable à Dieu. Alors là, pas possible. L'orgueil ne doit pas être confondu avec le respect de soi, ni avec un sens légitime des dignités personnelles. Il s'agit plutôt d'une surestimation de soi, parfois accompagnée d'arrogance. Une telle attitude répugne Dieu. Et elle est une abomination devant Dieu. Il est écrit ceci dans Psaume 101, verset 5.
Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé,
oui,
je ne le supporterai pas.
Tu as entendu? Quand tu as... Non, Dieu ne te supporte pas. Dieu ne te supporte pas. L'orgueil peut revêtir plusieurs formes. Certains tirent orgueil de leur apparence. Tu me vois, moi, comment je suis baraqué? Regarde-moi. Ah, regarde ma poitrine. Regarde, j'ai la barbe. Regarde. D'autres tirent orgueil de leur race. Moi, je suis blanc. Moi, je suis. OK. La suprématie des races. Vous avez vu Hitler? Hein? Bah, cet orgueil de race, où est-ce qu'il a conduit le monde? La race aryenne. Ah, tout le reste, il faut s'éliminer. D'autres encore tirent orgueil de leur réussite professionnelle ou de leur position sociale. Alléluia. Donc, en d'autres termes, l'orgueil peut être d'ordre intellectuel, matériel, social ou spirituel. Alors, mais ce soir, nous allons nous limiter à l'orgueil spirituel. Les restes intellectuels, social, professionnel, vous avez des exemples vous-même. Alléluia. Mais nous allons nous limiter ce soir à l'orgueil spirituel. Pourquoi? Parce que l'orgueil spirituel est le plus dangereux. Comment faire, Albert? Oui, il est le plus dangereux parce qu'il est difficile à extirper, difficile à combattre, difficile à déloger. Vous pouvez lire, par exemple, Luc 18, versets 9 à 14, Jean 9, verset 41, 1 Corinthiens 4, verset 18, Apocalypse 3, verset 17. Luc 18, 9, 14, jusqu'à 14, Jean 9, verset 41, 1 Corinthiens 4, verset 18, et Apocalypse 3, verset 17. Je disais, l'orgueil spirituel est le plus dangereux parce qu'il est plus difficile à extirper. Alléluia. Voici sa première manifestation dans les Écritures. Prenons Genèse 3. Au verset Genèse 3, Un instant. Tu peux commencer à partir. À partir du verset 2, mais c'est le verset 6 qui nous intéresse.
La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
Mm-hmm.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
Oui. »
Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. »
Commencez déjà à être prudent à partir du verset 5. Oui.
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea.
Oui. Vous voyez au verset 5, Maha. Au verset 5, il a dressé le tableau pour attirer la femme à trois niveaux. Il dit, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Ah bon? Nos yeux s'ouvriront. Ok, continue. « Et que vous serez comme de Dieu. » Voyez-vous? Être égal à Dieu, comme Lucifer avait comme projet. Voyez-vous? Être égal à Dieu. Et, oh, donc ce monsieur est en train de nous mentir. Il continue en disant, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors, au verset 6, une fois, Ève est tentée, au verset 6, elle va rendre son verdict. Alléluia. Le verdict sera rendu. 1. La femme vit que l'arbre était bon à manger. C'est la convoitise de la chair. Alléluia. Ensuite, l'arbre était agréable à la vue. Ça, c'est la convoitise des yeux. Enfin, elle dira, l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est ici l'orgueil de la vie. Je serai comme Dieu. Je comprendrai comme dans l'intelligence artificielle. À chaque question que vous allez me poser, j'aurai une réponse. Alléluia. Donc ici, nous nous retrouvons devant l'orgueil de la vie. Donc Ève n'assiste pas à ce qui se passe qu'en simple spectatrice, mais elle est poussée à désirer le fruit. Parce que ce fruit est bon pour le manger. Et ensuite, ce fruit est agréable à la vue. Et enfin, l'arbre était précieux pour ouvrir mon intelligence. Ah, mais attends, je serai comme Dieu. Ça, j'en ai besoin. C'est suffisant pour moi. Elle est poussée à désirer les fruits. La chute de l'homme fut accompagnée de la recherche de la connaissance. C'est ça que Satan a mis en avant au verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Alors là, la carte était jouée. Mais Dieu donne un avertissement sérieux aux orgueilleux. Jacques 4, verset 6.
Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Mm-hmm. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Hein? Voyez-vous? Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Le mot traduit par résister, le mot grec, vous n'avez pas besoin de connaître ça, le mot grec qui a été traduit, c'est, je ne sais même pas lire ça, antitasetai. C'est un terme militaire qui signifie lutter contre. Voyez-vous? Un terme militaire qui signifie lutter. Donc Dieu résiste aux orgueils. Dieu va lutter contre toi. Aux humbles, cependant, Dieu fait grâce. N'est-ce pas? Aux orgueilleux, Dieu luttera contre eux jusqu'au bout. Aux humbles, Dieu fait grâce. Donc ici, l'appel consiste à éviter l'orgueil, à se soumettre humblement à l'autorité de Dieu. Alléluia. C'est ça l'appel de Dieu. Parce que quand Dieu se met à lutter contre toi, je ne sais pas, hein, quel sera ton sort. Hein. Certaines personnes croient détenir le monopole de la spiritualité. Elles sont fières, pharisaïques, se glorifient de leur propre justice et se croient meilleures que le reste du monde. Il est écrit dans Luc 18, versets 9 jusqu'à 14, Noah. Tu peux lire.
Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes.
Ah!
Et ne faisant aucun cas des autres.
Voilà.
Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. » Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre.
Voyez-vous?
Car quiconque s'élève sera abaissé.
Voilà.
Et celui qui s'abaisse sera élevé.
Voilà. Donc, on rencontre aussi des personnes qui s'estiment pures et considèrent les autres comme impurs. Il est facile de trouver des gens dévoués pour ôter la paille de l'œil des autres, mais lent à remarquer la poutre qui est dans le leur. Selon Matthieu 7, 3 et 5.
Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère.
Merci mon frère. Vous savez, ces gens-là, ils aiment faire sentir leur supériorité. Alléluia. Ils aiment faire sentir leur supériorité. Ils passent leur temps à critiquer, à casser du sucre sur le dos des autres. Alléluia. Alors, ce type d'orgueil est grave. Gare à toi si tu es un but de toi-même. Je ne suis pas comme ces publicains. Moi, j'ai fait ci. Moi, j'ai... Oh là là, calmons-nous. Calmons-nous, c'est Dieu qui sonde le cœur. Alléluia. Tu ne te connais même pas. Hein? Alors, si tu es imbu de toi-même, fais gaffe. Fais gaffe. Tu es en train d'évoluer alors sur un terrain glissant. Pourquoi? Parce que Ozias en a fait le frais. Ozias, le roi Ozias, en avait fait le frais. 2 Chroniques 26, versets 11 jusqu'à 21.
Ozias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptés d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jehiel et le commissaire Maaseja, et placés sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison...
Tu es où là? Tu es où?
2 Chroniques 26.
Oui, verset 16, 21.
16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu.
Oh.
Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. »
Tu n'as pas le droit.
« Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Ozias qui tenait un encensoir à la main et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'autel des parfums.
Son sort, puisque monsieur voulait devenir autre chose que ce qu'il était. Son cœur s'éleva parce qu'il était devenu puissant. Alors, dans le message, l'influence d'un autre, à la page 16, écoutons paragraphe 59. Quand ce roi devenu grand, exerçant son influence sur Esaïe, et le juste de son royaume, en arriva au point où il commença à se sentir sûr de lui-même. Et c'est là que vous commettez votre faute. C'est là où tant d'hommes justes mordent de la poussière, de la honte, mordent la poussière de la défaite, parce qu'ils commencent à se sentir sûr d'eux-mêmes. Maintenant, pensez à la définition de l'orgueil. Alléluia. Ils commencent à se sentir sûr d'eux-mêmes. Vous commencez à penser que vous avez vécu si longtemps pour Christ que peu importe ce qu'il présentera devant vous, de toute façon, vous ferez votre choix pour savoir si vous le voulez ou non. Vous devez continuer à servir Dieu, peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans. C'est ce que vous êtes maintenant qui comporte. Paragraphe 60. Le roi en arriva au point où il pensa en lui-même qu'il était quelqu'un d'important. L'orgueil entra dans son cœur et c'est ce qui nous arrive. Oh mais, frère Albert, moi je ne suis pas orgueilleux. Hein. Vraiment, je suis humble. Frère, tu ne travailles pas encore, hein? Tu n'as pas de boulot, hein? Ok. Frère, tu n'as pas encore de voiture, hein? Ok. Frère, tu n'as pas encore de maison, hein? Ok. Donc les conditions ne sont pas réunies. Pour que tu puisses nous dire non, non, frère, moi je ne suis pas orgueilleux, moi je ne suis pas, cela. Vous savez, j'ai l'expérience moi. Quand nous étions étudiants ici dans ce pays, et que les autres n'avaient pas de papiers, ils étaient tout le temps assidus au temple. Mais dès que les choses ont commencé à s'améliorer, On a eu des papiers, on a terminé les études, on a commencé à acheter des voitures. C'est en ce moment-là que nous allons observer si tu n'es pas orgueilleux. Mais quand tu n'es pas dans les conditions, mais c'est normal que tu ne sois pas orgueilleux. C'est normal. C'est normal que tu ne sois pas orgueilleux. On se comprend? Mais dès que, autrefois, nos épinards n'avaient pas de beurre, mais aujourd'hui, maintenant, les épinards ont du beurre. Et donc, la situation a changé. Tu verras même dans la manière de se présenter. Alors, le messager dit, paragraphe 62, tellement aujourd'hui, prenez une famille qui commence à aller à l'église. Et Dieu guérit la petite famille. Il est béni et leur donne le Saint-Esprit dans leur vie. Les petits-enfants prieront autour de la table. Ils prieront avant d'aller au lit. La mère et le père joindront leurs mains et prieront. Aussi longtemps qu'ils agiront ainsi, ils y resteront une famille. Mais si vous les laissez trois points de suspension, au début, ils n'avaient rien pour se déplacer. Si ce n'est une vieille voiture ou une bonne... si ce n'est une vieille voiture, ou peut-être allaient-ils à pied. Finalement, ils achètent une bonne voiture et une meilleure maison. Alors, vous vous apercevez qu'ils veulent s'associer à ce que le monde appelle une meilleure classe. Ils déménagent dans un voisinage différent et là, ils découvrent qu'ils commencent à subir une mauvaise influence. Vous devez toujours rester là où se trouve le royaume de Dieu.
Alléluia.
Et là où la gloire de Dieu est déversée.
Alléluia.
Restez où vous pouvez nourrir spirituellement jour et nuit.
Amen.
Tout à coup, vous vous apercevez que la séparation entre dans le foyer, la mondanité, et qu'il commence à s'élever. Ozias se fit ainsi, il s'éleva et devint très orgueilleux. Hier, votre salon était une petite assemblée. Une petite assemblée. Tout le temps. Et aujourd'hui, votre salon est devenu une salle de spectacle, une salle de divertissement. Film sur film, théâtre sur théâtre. Oh, et cette petite maison d'autrefois, cette petite maison d'autrefois, nous avions eu un certain enfant dans notre maison. Il était frère Tombeau, il était le frère Paul. Il commençait d'abord à faire chanter. Alors, il nous donnait des ordres. Allez, chanter! 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 Après avoir fait chanter, allez, il prêchait. Il prêchait. Nous étions là, comme ses fidèles. Et aujourd'hui, je pense que cette petite maison, cette petite maison-là, quand on n'a encore rien, mais quand on a maintenant du beurre dans les épinards, on n'a plus le temps de prier avec les enfants. On n'a plus le temps on n'a plus le temps. L'orgueil a gagné le cœur des gens. Maintenant, nous voyons ce qu'il essaya de faire, où il s'est fait avoir quand il se fut élevé dans son cœur. Nous découvrons qu'il entra dans le temple de l'Éternel avec un encensoir à la main pour brûler de l'encens à l'Éternel. À ce moment-là, le sacrificateur du temple, avec 80 autres sacrificateurs, le suivait et lui dit, « Ne fais pas cela, tu agis mal. Tu n'es pas un sacrificateur, tu es un roi. » Pas un sacrificateur. C'est là l'irrita et il s'est mis en colère. Voyez-vous? On va voir les indices de l'orgueil. Ici, on nous dit, il s'est mis en colère. Donc, il n'aime pas la correction, l'orgueilleux. Non, ce n'est pas pour lui. Cela où Nous voulons maintenant apprendre une leçon. Si cet homme que Dieu avait béni dans sa fonction, mais il n'était pas satisfait avec cela, il voulut prendre la place de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas être quelque chose que vous n'êtes pas. C'est assez vrai. Vous devez rester avec votre appel, là où Dieu vous a appelé. Alléluia. Alléluia. Ozias a pris à son dépens. L'orgueil porte l'homme à se mettre à la place de Dieu. Le virus de l'orgueil, c'est ce qui a contaminé et envahi l'esprit et le cœur de Judas Iscariote. L'orgueil est le péché de Lucifer. Hein, nous avons lu ça dans Isaïe. L'orgueil est le péché de Lucifer. L'orgueil génère la présomption, la vaine gloire, l'arrogance, la vanité, l'ambition parmi les nombreuses perversions. Pour terminer, mes frères et sœurs, je voudrais mentionner quelques attitudes qui peuvent servir comme signal d'alarme du fait que l'orgueil habite en toi. 6 éléments que j'ai épinglés. 1. L'autosuffisance. 2. La résistance devant la correction, comme on a vu, hein, Ozias. Alléluia. La résistance devant la correction. Non. Qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, je suis roi. Je connais tout. J'ai la loi dans la maison, non? Hein? La résistance devant la correction. 3. Le désintérêt de vouloir apprendre. Quand il lui dit quelque chose. Oh non, mais je sais. J'ai lu ça. Hein, j'ai vu ça. Toujours, hein, il anticipe. J'ai vu ça, mais je connais. Oh. Enlève d'abord ton opinion. Écoute. Écoute, tu apprendras. Mais l'orgueil, il a le désintérêt de vouloir apprendre. 4. Excès de confiance en soi. Excès de confiance en soi. 5. Certitude d'avoir toujours raison. Il a la certitude d'avoir toujours raison. Et 6. Il est toujours dans l'auto-justification. Alléluia. Ce sont là les 6 éléments comme signal d'alarme. Quand vous vous retrouvez dans un contexte là, il faut aller prier pour votre frère ou il faut prier pour vous-même. Alléluia. Alors, que peux-tu faire à l'endroit de l'orgueil? Il n'y a pas 36 000 solutions, mon frère, ma soeur. Confesse à Dieu toute forme d'orgueil. Humilie-toi devant Dieu, car le cœur hautain ne trouve pas d'audience auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Le cœur hautain ne trouve pas d'audience devant le Seigneur. On chasse l'orgueil par son contraire qui est l'humilité. Amen. Alléluia. Amen. On chasse l'orgueil par son contraire qui est l'humilité. C'est une grande vertu par laquelle Dieu fait grâce en nos vies. Mon frère, ma sœur, fais les bons choix, car tout choix porte ses conséquences. Attention de vivre au désir du moment. Attention, ne vis pas au désir du moment. Rappelle-toi toujours, mon frère, ma soeur, rappelle-toi toujours de tous les bienfaits de Dieu pour toi. Et cela t'aidera à faire chaque fois de bons choix. Tu dois toujours de te rappeler tout le bienfait de Dieu. En ce moment-là, tu seras amené de faire le bon choix. Mon frère, ma soeur, pour nous séparer, mémorisez déjà les quatre textes que nous avons utilisés pour présenter ces messages. C'est déjà le début d'être libéré de cet esprit. Parce que tout ce qui est dit dans ces quatre versets, si tu rentres à la maison, commencez à méditer ça. En tout cas, tu vas commencer à te sentir toi-même interpellé. Alléluia. Attention, ce quatrième renard qu'on a qualifié la punaise d'Élie qui peut piquer 90 fois en une nuit. 90 fois en une nuit. Donc tu dois savoir que l'orgueil est dangereux. Très dangereux. Il faut faire très attention. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de terminer avec notre quatrième renard. Alors là, c'est à tout un chacun. Vous savez, décider, c'est choisir. Hein? Chacun doit se décider de faire cet examen de ce quatrième renard que nous avons qualifié de très dangereux. Alors Dieu lutte contre l'orgueilleux. Alors quand Dieu lutte contre toi, tu sauras qui va te défendre.
Oh, quand j'ai songé à l'amour de Jésus, tout ce qu'il a fait pour moi, alors je veux chanter Alléluia. Merci pour Golgotha. Oui, merci. Pour Golgotha. Oui, oui, merci. Je veux compter sur ta grâce pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, tout entier sur mon cœur, pour que je vive ta gloire et que je marche en vainqueur. Oh Jésus, tout entier sur mon cœur, pour que je vive ta gloire et que je marche en vainqueur.
Prions tous ensemble par rapport à ce que nous venons d'entendre ce soir. Mon Dieu, mon roi, justement, je vais compter sur ta grâce pour aller plus loin. Sans ta grâce, Seigneur Jésus, comment vais-je m'en sortir? Comme toi, tu es mon aide. Je t'appelle au secours parce que toi, tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Papa, que tu m'aides pour que je ne puisse pas endosser ce costume d'orgueilleux. Je viens de voir, ô mon Dieu Père éternel, que ce costume est dangereux. Dangereux comme tu luttes. Tu luttes contre l'orgueilleux. Alors Seigneur, qui va me défendre? Qui va me défendre si je reste dans ces conditions-là? Papa, il n'y a que toi qui peux nous aider. Il n'y a que toi qui peux nous aider, Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous venons d'écouter. Mais maintenant, il faut que le Saint-Esprit vienne nous aider à prendre conscience, à corriger notre manière de nous regarder. On n'a pas à se comparer avec qui que ce soit. Je ne suis pas supérieur à quelqu'un d'autre. Non, c'est toi qui es l'élévation dans ma vie. Merci Père éternel pour avoir été avec nous. Le temps de rentrer, puisque nous avons terminé à la maison, est arrivé. Que tu nous accompagnes, que tu nous bénisses, que tu nous aides, oh mon Dieu Père, à garder ces dépôts, Père. Si tu nous permets encore de nous revoir, de nous compter parmi les vivants le vendredi, nous venons te louer et t'adorer. À toi l'honneur, à toi la gloire, Père. Ce que nous venons de demander et ce que nous n'avons pas demandé, que le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est dans le nom béni et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Notre culte est terminé. On me donne un mot ici, je vais lire. Correction par rapport au changement d'heure de ce week-end. On va avancer d'une heure. On va donc perdre une heure, pas qu'on va en gagner une. Voilà. Donc, quand il sera 21h le samedi, ça sera 22h. Que Dieu vous bénisse.